Clarté biblique, une émission présentée par Jean-François Sécolier.
Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission concernant l'Église, l'Église primitive en particulier. Bonjour à tous, bonjour chers amis, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, je me propose de vous parler d'abord des temps de Dieu. C'est en fait la suite de l'émission précédente. Je vous avais dit que les temps des nations arrivaient à leur terme selon le texte biblique. Eh bien, si les nations arrivent à leur terme, le temps de l'Église se termine également. Lorsque les chrétiens authentiques, ceux qui appartiennent véritablement à Jésus-Christ et qui font partie de l'épouse, entre guillemets, seront montés à la rencontre de l'époux, c'est-à-dire Jésus, leur sauveur, dans les cieux, l'Église véritable ne sera donc plus sur la terre. Nous vivons donc aujourd'hui les derniers moments de l'Église de Jésus-Christ sur cette terre. Ce constat devrait nous faire réfléchir et nous devrions nous poser un certain nombre de questions, en particulier celle-ci. Fais-je réellement partie de l'épouse qui sera enlevée? Suis-je parmi ceux qui appartiennent véritablement à Jésus-Christ et qui seront enlevés à sa rencontre dans le ciel? La Bible nous montre que le fait de fréquenter, même assidûment, une paroisse, une église, un mouvement chrétien, une communauté, n'est certes pas un gage de salut. C'est bien plus mon engagement personnel, c'est ma communion et mon intimité avec Dieu le Père qui seront déterminants. Si je suis un responsable d'église, est-ce que je me soucie du salut de mes contemporains? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que l'Église fait pour permettre au plus grand nombre d'entrer dans le royaume des cieux? Si je suis un responsable d'Église, est-ce que je participe à l'épanouissement de mes frères et sœurs, à leur engagement, à leur responsabilisation, à leur implication dans la vie de l'Église et hors de l'Église? Le temps est court, il y a urgence. Les habitudes, les routines, les coutumes, si elles sont sécurisantes, devraient être remises à plat et repensées. Il est encore temps de se mettre à l'écoute du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, la Bible. Est-ce à dire que les églises ne fonctionnent pas correctement? Eh bien, personnellement, c'est ce que je crois et nous y reviendrons. Revenons aux considérations historique. Que se passait-il au temps de Jésus? Il est très important de revenir aux origines du christianisme pour le comprendre. En ce qui concerne le monde païen, que se passait-il? Eh bien, politiquement, il était unifié sous le sceptre de Rome. Les Indes et la Chine étaient les seuls foyers de civilisation qui restassent en dehors de l'Empire. La paix romaine, appelée Pax Romana, et le bon état des routes favorisaient les voyages et le commerce. La même langue, le grec, était comprise partout. C'était donc des atouts très importants pour le développement de cette civilisation, de cette société. Un mot sur la Pax Romana. Les historiens ont donné le titre de Pax Romana à la période qui s'étend de l'an 30 avant Jésus-Christ aux environs de l'an 180 de notre ère. C'est Octave, devenu empereur de Rome, honoré plus tard par le Sénat du titre d'Auguste, qui mettra fin à un siècle de guerre civile et s'emploiera avec succès à rétablir la paix sur terre comme sur mer dans son empire qui allait de la Bretagne à l'Euphrate et de la mer du Nord au Sahara. Que se passait-il à cette époque moralement? Eh bien, moralement, le monde était tombé très bas. Le mariage était profané, la vie humaine méprisée. Il est à noter cependant que cette corruption excluait la propre justice. Le monde avait conscience de son péché plus qu'à d'autres époques. Que se passait-il aussi au point de vue religieux ? Eh bien, au point de vue religieux, les formes étaient observées, mais on avait cessé de croire aux divinités officielles. Les âmes se tournaient vers les religions orientales ou vers la philosophie pour y chercher la satisfaction de leurs besoins religieux, sans d'ailleurs la trouver. N'empêche que certaines aspirations se faisaient jour, ainsi qu'en fait foi la quatrième églogue de Virgile avec son curieux espoir d'un retour à l'âge d'or. Voyons ce qui concerne le peuple juif. Eh bien, en ce qui concerne le peuple juif, politiquement, il était asservi, bien sûr. La Palestine était province romaine et beaucoup de juifs étaient dispersés dans les principales villes de l'Empire où ils avaient fondé des synagogues. Au point de vue moral, les Juifs étaient très supérieurs aux autres peuples, mais leur morale austère était sans élan et sans amour, et les commandements de Dieu étaient noyés dans les traditions humaines. Au point de vue religieux, les synagogues, où les scribes lisaient et expliquaient la loi, avait pris une grande importance. Deux partis exerçaient une influence prépondérante sur le peuple. Les pharisiens, séparés, hostiles à tout ce qui était païen, attachés à la tradition. Et les sadducéens, plus libéraux, qui avaient la haute main sur le temple. Il existait aussi de petits cercles adonnés à la mystique et à l'ascétisme, comme les esséniens. Les Juifs de la dispersion, 2 millions à l'époque de Jésus, d'après Régis Debray, avaient subi l'influence de la pensée grecque. Un Juif d'Alexandrie, Philon, est célèbre avec ses spéculations sur le Logos. Le Logos est le Verbe éternel incarné, comme nous le dit Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'était Jean, chapitre 1, verset 14. Cette parole faite chair, vous vous en doutez sans doute, correspond à Jésus. Philon donc voyait dans le Logos un intermédiaire entre Dieu et le monde. Il combinait une interprétation subtile de l'Ancien Testament avec la philosophie de Platon. À l'inverse, la religion d'Israël n'était pas sans exercer une certaine attraction sur les païens. Certains, appelés les prosélytes, allaient jusqu'à se faire incorporer dans la communauté juive. D'autres, appelés les craignants Dieu, était simplement sympathisant. L'existence de synagogues réparties dans tout l'Empire romain et autour desquelles gravitait une foule attirée par la foi juive constituait une excellente base de départ pour l'évangélisation chrétienne. Dans les cercles mystiques, comme les pharisiens, comme au sein du peuple affligé par la domination étrangère, l'attente du Messie était vive, mais bien peu se doutait de la manière dont allait se réaliser l'espérance d'Israël. Autrement dit, beaucoup s'attendaient à voir surgir un jour un libérateur du joug romain qui chasserait enfin hors de ses frontières l'envahisseur. Monothéiste, la religion juive était religion licita dans l'Empire romain, c'est-à-dire admise parmi les cultes polythéistes, mais au prix d'une collaboration entre les autorités religieuses de Jérusalem et politiques de Rome. Les premières contrôlées par le rôle central et sacré du Temple les communautés qu'elles représentaient à Jérusalem, en Palestine et dans la diaspora. Les autorités religieuses juives exerçaient ainsi leur pouvoir tant en servant la sécurité politique de l'Empire romain. Celui-ci, en échange, tolérer en son sein le particularisme religieux de ces communautés. Eh bien, nous allons faire une petite pause musicale et je vous retrouve dans un court instant. Voilà, eh bien je vous retrouve pour la suite de notre émission avec un passé tumultueux. Voyons ce qui se passait donc en Palestine à cette époque-là. La Palestine, coincée entre la Méditerranée et le désert de Transjordanie, est un corridor entre les pays du Nord, l'Europe, l'Asie mineure, l'Asie centrale d'une part, et les pays du Sud, le continent africain, dont la tyrante Égypte, d'autre part. La dépression qui commence au nord du pays, passant par le lac de Galilée et la mer Morte, se poursuit jusqu'au golfe d'Aqaba. Le dénivelé entre la ville d'Hébron, qui culmine à 927 mètres, et la mer Morte, qui est, comme vous le savez, sous le niveau de la mer, à moins 392 mètres, ce dénivelé est donc de 1319 mètres. Cette situation particulière en fait un pays stratégiquement intéressant, quoique pauvre. De ce fait, il s'est trouvé sans arrêt sous le contrôle de diverses puissances étrangères. En fait, en Palestine, la situation n'était pas facile. Après la domination persane, elle connut celle de la Grèce. La volonté d'unification politique par l'unification religieuse, conduira les dirigeants des différentes dynasties à opprimer le peuple juif. De sacrilège en massacre, la Palestine a été le théâtre de persécutions, de révoltes, de répressions violentes et aussi de guerres civiles qui opposaient juifs fidèles à l'Éternel et juifs ayant abjuré. Certains succès dus à la guérilla contre les troupes grecques encouragèrent les Juifs à la révolte. Et le soulèvement général des Juifs, notamment par Judas Matthias, surnommé Maccabée, ce qui signifie marteau, contre Antiochus Épiphane, harcelé de l'autre côté de l'Empire par les Parthes, ramena la liberté religieuse en Palestine, puis l'abandon du tribut. Les Romains prirent la relève des Grecs avec Pompée qui plaça sur le trône l'Iduméen Hérode Antipater, dont le fils, Hérode le Grand, qui régna 36 ans, fit massacrer les enfants de Bethléem. Vous vous rappelez, hein, c'était au moment de la naissance de Jésus que ce drame s'est produit. C'est donc dans ce passé tumultueux et tragique que Jésus vint au monde, voir page 311 à 349 de l'Histoire d'Israël de Thomas Bress. Le fondement de l'Église. L'histoire de l'Église présuppose la vie, la mort, la résurrection et l'ascension du fondateur de l'Église, Jésus-Christ. Cependant, nous nous abstiendrons d'esquisser ici une vie de Jésus, même sommaire, car elle ne fait pas partie de l'histoire ecclésiastique. Pendant son ministère, Jésus a préparé ceux qui devaient former le noyau initial de son Église. Par sa mort et sa résurrection, il a créé les conditions nécessaires à son existence. Celui-ci commence à la Pentecôte, comme on peut le lire dans Jean chapitre 7, verset 39. C'est Jésus qui parle et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jésus a parlé de l'Église universelle comme d'une entité qui n'avait pas encore commencé à exister. Matthieu chapitre 16 et verset 18 « Et moi, je te dis que tu es Pierre, c'est Jésus qui parle, et que sur cette pierre, c'est-à-dire sur ce caillou, en somme, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Pour comprendre ce que signifie ce caillou, il faut se référer au verset précédent, verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Cette pierre ou caillou est donc la révélation donnée par Dieu à Pierre sur la personne de Jésus-Christ. C'est sur cette vérité que Jésus-Christ va bâtir son Église, celle qu'il s'est choisie et qui lui appartient, avec ceux qui reconnaissent en lui le Christ et le Fils du Dieu vivant. Le baptême du Saint-Esprit, par lequel les croyants forment un seul corps, apparaît aussi comme une grâce qui n'était pas accordée avant la Pentecôte. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Jean chapitre 7, verset 39. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Actes chapitre 1, verset 5. « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Voilà donc ce que Jésus avait annoncé avant d'être enlevé dans les cieux. Avant cela, il y avait des rachetés isolés les uns des autres. Mais depuis la Pentecôte, et seulement depuis, il existe un ensemble qui s'appelle l'Église. Le Saint-Esprit n'est pas seulement le ciment qui unit les chrétiens, il est aussi une présence qui conseille et dirige les apôtres et les disciples, comme nous le voyons dans Jean, chapitre 16, versets 13 et 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit est aussi une puissance pour témoigner, comme nous le voyons dans Actes chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Parlons maintenant de l'expansion de l'Évangile. Les étapes avaient été fixées par Jésus lui-même et rappelées dans Actes chapitre 1, verset 8, que nous venons de lire. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors donc, trois étapes. D'abord Jérusalem. Le travail dans cette ville remplit les chapitres 1 à 7 des Actes des Apôtres. Il fut d'ailleurs très fructueux puisque des milliers furent amenés à la foi. On estime même qu'à un certain moment, 80% des habitants de Jérusalem furent chrétiens. La Judée et la Samarie. À la suite d'une persécution, les disciples se répandirent dans ces régions. Le travail du diacre Philippe n'est sans doute qu'un exemple entre beaucoup d'autres. Les extrémités de la terre, ce n'est que peu à peu que les disciples ont été amenés à sentir la nécessité de prêcher l'Évangile à tous les peuples. Pierre, à la suite de révélations précises, ouvre la porte aux païens en baptisant Corneille, Actes chapitre 10. Paul fera plusieurs voyages à l'étranger de son côté. Ces étapes données par Jésus sont encore valables aujourd'hui pour l'évangélisation. Il faut commencer à témoigner à ceux qui sont proches, amis, famille, collègues, voisins, etc. C'est le premier cercle. Ensuite, on peut étendre son action sur d'autres cantons, sur le département et sur la région. C'est le deuxième cercle. On peut alors envisager d'évangéliser jusqu'au bout du monde, soit directement par soi-même à certaines conditions, soit en envoyant au loin des chrétiens appelés, engagés et volontaires. Cependant, ce travail ne sera efficace que si là où les personnes ont reçu un appel de Dieu pour ce genre de mission. Sans appel spécifique de Dieu, confirmé par plusieurs sources, mieux vaut ne pas s'engager. Puis, des missionnaires inconnus évangélisent la ville d'Antioche, Actes chapitre 11. À la suite d'une révélation, Paul entreprend son premier travail missionnaire, Actes chapitre 13. Ce n'est pas sans difficulté qu'il obtint du synode de Jérusalem que les païens convertis ne soient pas astreints d'observer la foi juive, Actes chapitre 15. Mais une fois ce point acquis, l'évangélisation fait des progrès rapides et à la fin du premier siècle, dans tout l'Empire, il y a des églises. La destruction de Jérusalem en 70 par Titus acheva de donner la prépondérance aux églises issues du paganisme. Les chrétiens de Jérusalem purent pourtant s'enfuir à temps, comme nous le montre Matthieu chapitre 24, versets 15 à 18. Eh bien, nous arrivons au terme de cette édition, de cette émission. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour la suite de cette étude sur l'Église et en particulier l'Église primitive. Eh bien, soyez bénis, bonne semaine, bonne quinzaine et à très bientôt.